Bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission des Secrets de la Servante sur IDFM Radio. Cette émission est consacrée à la culture, plus particulièrement au spectacle vivant, et nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Aujourd'hui, nous recevons deux artistes, Marie Moriette et Emmanuel Hérault. Ils ont créé ensemble le spectacle Emma Picard, qui se joue actuellement à Paris au Théâtre Essaillon, tous les mardis à 19h jusqu'au 16 décembre. Ils vont nous parler de leur travail d'adaptation, de mise en scène, de composition musicale et d'Emma, qui, à la fin des années 1860, part en Algérie pour cultiver une terre octroyée par la France. Marie et Emmanuel, bienvenue au micro des Secrets de la Servante.
Merci Christelle, merci de nous avoir invités.
Merci, bonjour à toutes et à tous.
Allez, on lance les clés des planches et on vous donne aujourd'hui du vocabulaire supplémentaire sur le spectacle vivant comme chaque semaine. Savez-vous ce qu'est le quatrième mur au théâtre? Grande question. Alors, lorsqu'on visualise un appartement, chaque pièce est plus ou moins carrée avec quatre murs. Bon. Eh bien, au théâtre, la scène est un espace délimité par le fond de la scène, les deux coulisses sur les côtés, à cour et à jardin, et le devant de la scène. Donc là, on a bien les quatre. Les trois premiers murs, le fond et les côtés, sont visibles, puisqu'ils sont fermés en quelque sorte, pour le spectateur. Mais le quatrième mur, lui, il est invisible. C'est celui qui sépare les artistes du public, mais il est imaginaire. Un peu comme si les spectateurs regardaient une histoire à travers un miroir sans teint.
Oui, exactement.
Voilà. Et ce quatrième mur, pour autant, il est super important. Oui. Les artistes doivent le matérialiser et le faire exister. C'est ce quatrième mur qui crée l'illusion de la réalité de la fiction. Alors, bien sûr, au théâtre, comme en littérature ou au cinéma, on peut jouer avec ce quatrième mur. Par exemple, quand un comédien s'adresse directement au spectateur par un regard, un geste ou carrément en lui parlant, ben, tout de suite, ça crée un lien plus fort entre le public et le personnage et ça fait tomber le quatrième mur, d'où l'expression au théâtre quand on dit « briser le quatrième mur ». Voilà. Vous savez tout et ça m'offre une transition parfaite avec nos invités puisque Emma Picard, c'est un seul en scène, donc ça rend très subtil le jeu avec le quatrième mur pour que le spectacle existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé ce quatrième mur sur ce spectacle?
Oui, non?
Vas-y.
Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement Emma Picard est un seul en scène et le personnage est face publique.
Ouais.
Essentiellement, un peu de mouvement, mais c'est et donc la question s'est effectivement posée de comment on allait gérer en quelque sorte ce quatrième mur. Le choix que nous avons fait, qui est directement lié au texte à partir duquel nous avons travaillé, est que le personnage, donc la comédienne, ne s'adresse pas au public directement. Donc on ne brise pas le quatrième mur dans Emma Picard. À aucun moment elle ne s'adresse directement aux spectateurs et aux spectatrices sous aucune forme que ce soit, comme tu l'as évoqué, c'est-à-dire un clin d'œil, un sourire,
oui,
un mot, il y a rien.
Aucun regard.
Elle est en quelque sorte seule dans son, enfin pas tout à fait seule puisqu'il y a un autre personnage, un enfant dans un lit à côté d'elle, mais en tout cas, elle n'est pas en connexion directe avec le public. Pour autant, c'est très étonnant parce que les particularités du texte et de l'interprétation de Marie et des choix que nous avons faits dans la création de ce spectacle conduisent les spectateurs, dans la plupart des cas, en tout cas c'est le retour qu'on a des spectateurs, à avoir ce sentiment que ils sont quand même bien avec elle et que, et parfois, bien qu'elle ne les regarde jamais directement dans les yeux, puisqu'on fait très attention à ça, eh bien, les spectateurs nous disent et les spectatrices nous disent souvent: parfois, j'avais l'impression qu'elle s'adressait à moi.
Ouais.
Alors, c'est très étrange,
c'est vrai.
Parce que nous, on a vraiment fait le choix, et moi qui ai vu, en tant que metteur en scène et spectateur aussi, ce spectacle de nombreuses fois, je suis absolument formel, Marie ne s'adresse jamais au spectateur, donc Emma Picard ne s'adresse pas au spectateur. Et pourtant, je comprends très bien que les spectateurs se sentent dans une relation d'intimité avec le personnage, qu'ils soient emportés dans cette histoire et qu'ils aient le sentiment d'avoir un lien un peu étroit avec le personnage.
Ok, intéressant. Alors justement, en parlant de l'histoire, vous avez fait une adaptation du roman. C'est un roman de Mathieu Bellesi et vous avez gardé son titre, Emma Picard. Tout est parti de la rencontre avec cet auteur qui a écrit plusieurs romans, je crois, consacrés à l'histoire de familles françaises en Algérie, c'est
ça ? Oui, il y a 4 romans en tout, dont le dernier, Attaquer la Terre et le Soleil, qui a eu le prix du livre inter en 2023, le prix Le Monde. Et c'est le tout dernier, mais par contre qui raconte le début de la présence française en Algérie, c'est-à-dire les années 1830.
Alors, pardon, toute petite précision. Attaquer la Terre et le Soleil, c'est le dernier roman de la tétralogie consacrée aux Français en Algérie. Mathieu Bellesi vient de sortir un autre roman qui n'est pas sur le thème des Français en Algérie, qui s'intitule Cantique du Chaos. Donc, c'est en actualité littéraire. D'accord? Mais dans la série de la tétralogie des Français en Algérie, Emma Picard était le troisième roman. Attaquer la Terre et le Soleil, le dernier, qui a eu des prix. Toute petite précision aussi, à l'origine, Emma Picard est sortie sous le titre « Un faux pas dans la vie d'Emma Picard ». Pour que les spectatrices, les auditrices et auditeurs qui connaissent éventuellement Mathieu Bellesi voient bien qu'on parle bien du même texte. Et le livre a été réédité en 2024 sous le titre « Emma Picard ».
Plus court.
Et donc nous avons choisi de garder pour notre spectacle le titre de cette réédition pour faciliter l'identification du texte et du spectacle.
Ok. Voilà. Et donc vous avez travaillé avec l'auteur ? Vous l'avez rencontré ?
On l'a rencontré dans un cadre privé. Et ensuite, en fait, on n'a pas vraiment travaillé avec lui. Il nous a fait confiance, complètement confiance sur l'adaptation. On avait une très grande connexion intellectuelle avec lui. Et en fait, il nous a laissé faire. Et il est toujours d'ailleurs très content du résultat au niveau du texte.
Alors
il faut quand même préciser qu'on avait à cœur, très à cœur, de ne pas toucher le texte. Quand les gens viendront voir le spectacle, ils comprendront pourquoi. Il a une manière d'écrire très particulière, avec des phrases très longues. C'est magnifique. Et on n'imaginait pas une seconde toucher un seul mot du texte. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça a été un gros travail, parce qu'on a fait que des coupes et des raccords, en réalité.
Alors, en l'occurrence, on n'a pas fait le travail d'adaptation avec lui. Comme le dit Maris, oui. Il nous a fait confiance. Et ça a été une grande chance pour nous, parce que ça nous a donné une liberté dans le travail. Mais évidemment, on était en relation étroite avec lui. Et on lui a rendu compte de toute la progression de notre travail. Il a validé, au cours même du processus d'adaptation, il validait nos choix. Et c'était important pour nous, pour ne pas se lancer dans des directions qui auraient été, qui n'auraient pas été éventuellement approuvées par l'auteur.
Oui,
donc ça a été quand même une relation étroite, un dialogue étroit avec l'auteur, mais effectivement, il nous a laissé faire l'adaptation. Mais parce que nous, on avait en tête effectivement un roman, et c'était très important pour nous d'en faire un texte pour la scène, et donc tout au long de l'adaptation, nous avons eu constamment à l'esprit les spécificités et les contraintes propres à un texte de théâtre, de manière à ce que ce soit propice à une version théâtrale. Tout en n'altérant pas le texte. Comme Marie vient de le dire, c'est très important. On n'a pas changé un mot. Nous avons juste fait des coupes et des raccords. Et ça a été un petit peu un travail d'orfèvre d'arriver à réduire ce texte, ce roman, sans pour autant qu'il n'y ait aucune réécriture ou aucune modification dans le texte.
Très bien. Et ce texte, c'est le récit du combat d'Emma Picard pour survivre. Alors, qui est Emma Picard ?
Alors oui, c'est le récit, c'est-à-dire que déjà, c'est une histoire, elle raconte l'histoire a posteriori, puisqu'elle raconte après 4 ans sur place, et elle raconte ses 4 ans en repartant du début. Emma Picard, c'est une paysanne française, très pauvre, veuve, mère de 4 enfants, à qui le gouvernement français offre 20 hectares de terre en Algérie, ce qu'elle n'a jamais eu. On lui a promis monts et merveilles, elle espère sortir de la misère. Elle arrive sur une terre extrêmement aride, et après 4 ans sur place, elle raconte son histoire. Donc c'est aussi le récit, elle se rend compte assez vite qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qui lui arrive. C'est le récit d'une désillusion, en fait, aussi. Le récit d'une désillusion, de se rendre compte qu'on lui a menti et qu'il faut quand même survivre. C'est une femme qui a un rapport à la terre très sensuel, qui est une mère. Donc il y a toute une... C'est un personnage qui est à la fois très très dur parce qu'elle résiste tout le temps, elle a beaucoup de volonté, beaucoup de grandeur, et à la fois elle est très tendre. C'est ce que je pourrais...
Oui, oui.
En même temps obstiné, en même temps... Il y a des gens qui m'ont dit, parfois, après avoir vu le spectacle, qui m'ont dit, mais en fait, elle nous a fait du bien aussi de voir qu'elle luttait jusqu'au bout, qu'elle avait ce courage. C'est admirable, quoi.
Même beaucoup de force.
Dans des conditions absolument épouvantables.
Je crois que c'est important aussi qu'on dise que nous, à la lecture du roman, nous avons été bouleversés par le roman et par ce personnage.
Oui.
C'est-à-dire que, bien sûr, le thème majeur, c'est la colonisation de peuplement, c'est-à-dire la France dans les années 1860 envoie des ressortissants français. Ça a une dimension historique. Et Mathieu Bellesi insiste, c'est vérifiable dans toutes ses interviews, qu'elles soient dans la presse écrite ou à la radio, etc. Il dit que tout ce qu'il a mis dans ses romans consacrés aux Français en Algérie est véridique et vérifiable. Après, à partir d'une matière historique, il a créé de la fiction. Donc Ce qui est absolument fascinant, c'est que, bien sûr, il y a ce thème et la question de la colonisation de l'Algérie est omniprésente, mais il a choisi dans ce texte-là de l'aborder sous l'angle spécifique de l'histoire d'une femme et de ses enfants, d'une famille, et puis des personnages qu'il y a autour d'eux. Il y a notamment un personnage, un Algérien, qui demande à rester avec elle, à travailler à la ferme, et il y a on assiste à cette solidarité des travailleurs de la terre dans leur lutte pour la survie, et là, ça déborde complètement la dimension politique, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il a énormément de couches de thématiques et de sens. Donc, bien sûr, il y a cette dimension historique, mais c'est surtout une histoire d'humanité.
C'est pour ce compte de l'histoire, qu'ils soient algériens ou français, les pauvres gens dont on profite et à qui on ment et qui essaient de survivre comme ils peuvent en ayant un petit peu de fraternité. Alors, ils sont pas tous fraternels, hein, mais en tout cas, dans l'histoire d'Emma Picard, il y a beaucoup de fraternité et puis des personnes qui profitent.
Et c'est aussi l'histoire d'une mère avec ses enfants, l'histoire d'une femme qui va tomber amoureuse. Enfin, il y a énormément de thèmes. Comme le disait Marie tout à l'heure, l'histoire d'une femme qui vient de la terre et qui a un rapport très très viscéral avec la terre. C'est ce qui fait que, précisément, elle ne comprend pas pourquoi la terre résiste comme ça. Parce que elle fait en Algérie ce qu'elle a toujours fait en France. Et c'est une travailleuse. On comprend que c'est une femme qui travaille très dur et qui considère que son travail doit porter ses fruits. Parce que elle a toujours travaillé la terre et la façon dont elle a travaillé la terre a toujours porté ses fruits. Donc là, il y a aussi une désillusion à cet endroit-là, à la fois... concernant les promesses d'un gouvernement qui a utilisé ces populations pour occuper le territoire algérien, mais il y a aussi une désillusion dans son rapport personnel avec la terre qui est pour elle une part étroite et intime de son existence. Donc c'est fascinant, tous ces thèmes-là sont fascinants, rendent le personnage passionnant, en tout cas ont rendu le personnage passionnant pour nous à la lecture du roman d'abord, puis dans le travail d'adaptation, puis dans le travail de mise en scène et interprétation.
Mm-hmm. Donc, tous les faits sont vrais, le personnage est fictif, et effectivement, on ne peut pas parler du spectacle sans parler du contexte historique. Alors, tu viens de dire une chose intéressante, Emmanuel, c'est que vous avez fait donc l'adaptation, mais vous êtes aussi des compositeurs.
Oui, on est
musiciens aussi, on est comédiens, musiciens tous les deux. Oui.
Comédiens, musiciens, danseurs aussi, je sais, un petit peu.
Bébé danseur, on va dire.
Bébé danseur, très
danseur.
Bien.
Il faut entretenir son corps quand on est comédien.
Donc là, la musique. Parlons-en. Comment vous avez travaillé
Alors, déjà, bon, nous, on est Marie est violoncelliste, moi, je suis guitariste. On est parti donc de ce qu'on fait nous. On a cherché. Alors, il y a pas beaucoup de musique. Hein, c'est pas un spectacle où la musique est très très présente, mais à quelques endroits, on s'était dit, ce serait vraiment bien de qu'on mette de la musique, et on a cherché à développer des compositions qui soient à la fois représentative de l'esprit du roman, c'est-à-dire il y a peut-être une part d'inspiration très subtilement orientale dans les gammes utilisées par moment, parfois. On voulait aussi quelque chose qui soit assez naturel parce que on est dans une histoire qui se déroule au 19e siècle et en même temps on voulait apporter un peu de modernité. Donc par exemple dans le morceau qui commence le spectacle, il y a ces éléments là, on utilise une gamme un peu d'inspiration orientale, on utilise le violoncelle et la guitare électrique qu'on a mixé dans quelque chose qui nous permet de créer un morceau qui n'est peut-être pas tellement datable, mais qui convient bien à un spectacle comme celui-là, qui est un spectacle créé dans les années 2000 et dont l'histoire se déroule au 19e siècle. Voyez, bon, on a cherché un petit peu à être le plus possible en adéquation avec ce que nous ressentions nous de cette histoire.
Oui, puis l'idée c'était d'être, en tout cas pour la musique de début, c'est vraiment être dans l'ambiance. Alors, quelle ambiance? Nous, on sait laquelle. Mmh. Peut-être les spectateurs, ça ne fait pas le même effet, mais en tout cas, dès que la musique commence, on est dans l'ambiance, quoi.
Ouais.
Comme dans un film, il y avait un peu cette idée-là aussi de musique pour le cinéma.
Oui, on est dans une approche un peu cinématographique. Et puis, il y a un autre moment où il y a un morceau de musique assez important qui accompagne le texte. Et là, pour le coup, c'est une composition à quatre voix pour violoncelle.
Ouais.
Donc, où on s'est inspiré d'une esthétique très particulière. Je peux pas en dire trop, mais
non,
on est dans la thématique.
Tu peux dire peut-être pour le son qu'on n'a pas, cherché à avoir un son parfait comme dans la musique de chambre ou dans les suites de Bach, par exemple, violoncelle solo. On a le son du violoncelle, il est un peu, comment dire,
un peu brut,
un peu
on va
brut.
Dire.
Voilà. Ouais, ouais. Et c'était volontaire.
Et puis, bon voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais voilà un petit peu notre approche.
On pourrait en parler des heures.
Oui.
Je crois que vous êtes passionné, n'est-ce pas? Alors bah justement, on va faire une petite pause musicale qui n'est pas vraiment une pause, puisqu'on va rester dans le spectacle. On va écouter le début du spectacle. On va écouter un extrait de la musique et Marie, derrière, tu vas commencer à jouer le prologue du spectacle. Ça nous donnera une idée de l'ambiance du spectacle. On écoute et on se retrouve juste après.
Mais avant de me taire, il faut que je dise dans quel enfer on nous a jetés. Nous autres, colons, abandonnés à notre sort de crève-la-faim sur des terres qui ne veulent et ne voudront jamais de nous. Léon, ouvre bien tes oreilles. Oui, il faut que je dise dans quel enfer on nous a jetés. Tes frères Charles, Joseph, et Eugène, et toi, Léon, toi, mon fils, et moi, ta mère. Moi qui ai eu le malheur d'écouter ce qu'un homme à cravate, assis derrière son bureau de fonctionnaire, me conseillait de faire pour sortir du trou dans lequel je me débattais depuis la mort de Gustave. Le fermier, choisi par mon marieur de père, et que j'avais épousé à 16 ans, et jamais trompé. Jamais quitté, et même jamais cessé d'aimer. Moi qui ai eu le malheur d'écouter et de suivre les conseils de cet homme à cravate, qui avait plus d'un boniment dans son sac, et à la main, une règle en fer qu'il pointait sur une carte de géographie pendue au mur. L'Algérie, c'est là, madame. La règle en fer dessinait les contours d'un pays qui me paraissait aussi vide que grand. La France vous en offre 20 hectares, peut-être plus. Il faudra voir sur place. Et pour sortir du trou dans lequel je me débattais, j'ai dit oui à l'homme à cravate assis derrière son bureau de fonctionnaire. Oui, oui, oui.
trois fois, oui. Tu te tais, Léon, allongé comme un mort-vivant sur ton lit, mais tu dois m'en vouloir d'avoir dit oui, à présent que ton corps est tout démanché et que tu ne sais plus si tu es mort ou vivant. Je lui ai dit oui, et j'ai signé de mon nom le bout de papier qu'il me tendait. Est-ce que j'avais le choix ? Avec quatre fils à nourrir, est-ce que j'avais le choix ?
Vous venez d'entendre un extrait du spectacle Emma Picard qui se joue en ce moment au théâtre Essaillon à Paris. Et nous sommes en présence de Marie Moriette et Emmanuel Hérault pour nous parler de ce spectacle au micro des Secrets de la Servante sur IDFM Radio. C'est fort. Ça démarre avec une phrase choc dès le début de la pièce. Avant de me taire, oui. Il faut que je dise dans quel enfer on nous a jetés.
Oui.
Et puis cette question qui revient sans cesse, au final, est-ce qu'elle avait le choix ?
Ben oui, elle retrace ces quatre années, mais même avant de partir et pendant qu'elle retrace ces quatre années, qu'elle revit en même temps, elle revit les émotions avec les émotions de l'époque et la couche d'aujourd'hui. Et à chaque fois, elle se dit, mais est-ce que j'aurais pu faire autrement, quoi ? Est-ce que c'était possible de faire autrement ? Et en fait, peut-être pas vraiment.
C'est une grande question. Oui. Là, en t'écoutant, là, et puis en vous écoutant là, dialoguer, je me disais, mais il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que... Alors, le texte, hein, c'est vrai que c'est très fort, ce début. C'est le texte de Mathieu Bellesi, c'est la langue de Mathieu Bellesi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bien que ce soit une écriture très moderne, les gens qui connaissent le roman s'en rendent compte, évidemment, il y a une façon d'écrire très particulière, y compris jusque dans la typographie, bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à découvrir. Mais il y a aussi le fait que, il est très moderne, très contemporain, et en même temps, il s'inscrit dans cette littérature qui s'intéresse au sort des femmes, notamment au XIXe siècle. Elle dit que, est-ce que j'avais le choix? Mais déjà, quand elle dit Gustave, elle parle de Gustave, le fermier, choisi par mon marieur de père, on parle d'une époque où les femmes ne choisissaient pas leur mari. D'accord? On parle de cette société-là où, et Emma Picard nous dit, je n'ai jamais rien choisi. Je n'ai pas choisi. Et le seul choix qu'elle fait dans sa vie, c'est juste de lutter pour survivre pour elle et pour ses enfants, en fait. Et ça en fait un personnage absolument magnifique de par sa combativité, par l'amour qu'il a fait tenir. C'est cette femme absolument fascinante, quoi, qui nous a touchés et qu'on trouve dès le prologue dans le texte que Marie vient de dire. Tout le personnage est planté là. Et puis après, ben, elle va dérouler son histoire et on va partir avec elle dans cette histoire absolument bouleversante.
Et la mise en scène, du coup, c'est aussi un parti pris, c'est-à-dire que la comédienne est très naturelle dans son jeu.
Oui. Alors effectivement, la question s'est posée. Nous, Mathieu Bellesi aime beaucoup le cinéma, nous aussi, et on s'est quand même posé la question de l'esthétique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut de la distance ou pas, est-ce qu'il faut une incarnation, et c'était pour nous très évident, et même en parlant à l'auteur, il était d'accord avec nous, qu'il fallait être dans le plus d'incarnation possible. Donc, naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Elle peut être véhémente, mais c'est toujours dans le naturel, c'est sans distance, sans déclamation, et le jeu le plus naturaliste possible.
Et je me permets d'ajouter que effectivement le travail de la mise en scène comporte, on va dire, deux grands pôles, la mise en espace et la direction d'acteurs. Et déjà, concernant la mise en espace et la scénographie, on a fait le choix ensemble. C'est moi qui l'assume en tant que metteur en scène, mais on a fait tout ce travail ensemble avec Marie de faire le choix de quelque chose de très minimaliste, très épuré, pour représenter juste les éléments essentiels de l'histoire, pour ne pas noyer le personnage dans des artifices scéniques. On est vraiment au plus près du personnage. Et donc, c'était cohérent avec une esthétique de jeu, comme vient de le dire Marie, très naturelle, qui n'empêche pas l'intensité. Mais on n'est jamais dans l'emphase, on n'est jamais dans une interprétation, entre guillemets, théâtralisée. On est dans quelque chose au plus proche possible de l'humain, en fait. Voilà, ce qui nous intéresse.
Quoi, et des émotions. Du personnage.
Et finalement, ben, on se rend compte que ça fonctionne parce que c'est le retour qu'on a des spectateurs. Les gens qui viennent nous voir, peut-être des gens qui n'aiment pas et qui ne viennent pas nous le dire, mais après avoir joué ce spectacle-là 3 fois au Festival d'Avignon, puis à Les Saillons déjà, à l'Épée de Bois, à la Cartoucherie l'année dernière, on y retournera. Enfin, à chaque fois que ce spectacle est joué, les spectateurs qui viennent nous parler nous disent on est en prise directe avec les émotions du personnage.
Ok, donc on va redonner les informations pour nos auditeurs qui veulent découvrir ce spectacle. On vous donne rendez-vous au Théâtre Essaillon à Paris jusqu'au 16 décembre et c'est tous les mardis à 19h. Et nous, on va se quitter en musique parce que c'est déjà la fin de notre émission avec un morceau choisi par nos invités. L'artiste est algérien, il s'appelle Hakim Amadouche. Vous l'avez rencontré et du coup vous teniez à le saluer.
Oui, c'était un coup de cœur musical. On l'a rencontré parce qu'on a joué dans un petit festival qui s'est créé dans
le Cher.
Dans le Cher. Ah. Et nous, on jouait à Mapika et on avait la chance de pouvoir assister au concert. Et on a vu un concert de ce musicien qu'on connaissait pas. On a été absolument emballés et on s'est dit, c'est l'occasion.
Première édition du festival French Songe en juin dernier.
Très bien. Eh bien, merci à Marie et Emmanuel de nous avoir partagé la passion de votre travail. Merci à Francky à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission et toutes les autres sur le site internet d'IDFM Radio à la page des Secrets de la Servante. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi 16h pour une nouvelle émission. Et d'ici là, soyez curieux, sortez et consommez de la culture.
Merci.
Merci.
BFM Radio, bien plus qu'une radio.
My heart beats in stereo. I'm all over the place. I wanna go to Tokyo. I wanna resonate. So tell me, how can I waste my time? Not in my eyes have gone red like wine. Yeah, cool and it ain't my style. Just let me go. Tonight is just me, myself and I, naked and alive. Ain't nobody else invited. I hate to say but I like it. Oh yeah, I like it. Now it's just me, myself and I, dancing on a wire. What's the point in time to fight it, when all I know is I like it. Oh yeah, I like it a little bit.
Looks pretty now. I got the view from space. When everything turns indigo, I'm still loving the haze. So tell me, how can I waste my time? I can feel supplements kicking in, and it sounds like my medicine. So I keep on listening. Tonight it's just me, myself and I, naked and alone. You know we got to get it crunk. Eddie J's in the spot tonight, 'cause I'ma make it feel right. Come on baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor.
Music is odyssey. It's it for you, for me. Just listen, find the magic key. It's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cup you a drink, go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating moment drama in our lives.
Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here.
Rap, got all my people falling from till the back, not back, not now who think slap box, slap box. They said I rap like a robot, so call me rap but. You ain't normal for being normal. And I just put a new wagon from the future just to come and shoot your life when fabulous make way jam up. Cause Bob's a look like a fan up man with a smart singing to a man way play piano. Man, oh man, that was a 24-7 special on the cable channel. So Richie went straight to the radio station the very next day. Hey, fam,
I'ma kill you.
Lyrics going out, trust supersonic speed, JJ first.
So many, my, my, you are streaming at me, man. What I gotta do to get to the I'm supreme.
Innovative and I'm in a purpose, suddenly things is ricocheting off of me and it will put you.
Devastating, what I never demonstrate. How to give a motherfucking audience a feeling like celebrating. Never feeling in another head, so forever waiting for the legacy, full of every celebrity.
I'm beginning to feel like a rap god, all my people from the front to the back, not back, not now who think their arms are long enough to slap, but they said I rap like a robot, so call me rap, but my tears gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all, the morning rain clouds up my window, and I can't see at all, and even if I could, it all be great, but your picture's on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad, so bad.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Du bruit. On criera tous les deux à l'ombre de la pluie.
Mais avant faut que je passe ma story ce soir avant minuit, je laisse filer la folie. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau. Tu vois si je joue la chasse, c'est pour que tes yeux baissent les armes, le temps de rallumer la flamme. Si je joue la chasse, c'est pour que tes yeux sèchent la larme, quitte à le payer de mon âme.
Si je joue le jeu,
moi de quoi j'ai l'air, le soir j'en ai assez. Prends-moi la lumière des néons fatigués. L'amour des miens, le soleil dans la peau. Et quand tournent les chiens, moi je leur tourne le dos. Oh. Derrière mon sourire, y'a tes mots. C'est pour toi que je tends la main. Quand tu cries, ça me tient chaud. Faut pas que je brûle avant la fin. Toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau. Tu vois si je joue la chasse, c'est pour que tes yeux baissent les armes, le temps de rallumer la flamme. Si je joue la chasse, c'est pour que tes yeux sèchent la larme, quitte à le payer de mon âme.
Si j'en joue le jeu,
moi de quoi j'ai l'air, le soir j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués, j'en ai rien à faire si je dors m'y brûler. Prendre la lumière,
si j'en joue le jeu,
moi de quoi j'ai l'air, le soir j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués, j'en ai rien à faire si je dors m'y brûler. Prendre la lumière,
si j'en joue le jeu.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait for you.
Old friend of mine, see you walking down the road, but you don't have to walk alone. No need to hide. I know it's hard to let it go, it's even harder if you don't. It gets better when you reach the other side. Oh, oh, it's hard to see it, but I promise there's a light.
I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me away. I will wait for you, I will wait for you. Till the light in your eyes reappears, I'll be here by your side. I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait, I will wait for you.
Lost in the tide, try to swim against the waves. Don't let your hope be pulled away. I know what it's like. I've seen dark and lonely days. I know you'll make it out okay. Better when you reach the other side. Oh, oh, yes, I see it, but I promise there's a light.
I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me away. I will wait for you, I will.
IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Feature. Ain't no see no evil. Vision like a desert eagle. Get hood
porn star with war scars from breaking laws and beating charges. Hopping charge, this shit is ours. Stacey Adams on a blue carpet.
Standing too close, your people around and catch a contact. Yeah. From the smell of his perfume,
and it got you feeling good, don't it? Same odor. This is an iconic moment.
Money on my mind. Oh yeah, yeah. She about to come alive. Oh yeah, yeah. And it's right before your eyes. Oh yeah, yeah. Just a thief in the night.
From the jump on the run, man, I walk away. I'm the one give the people what they got to say. You're not broken, no, I'm chosen, I just gotta have faith.
Time is passing as they act, the bomb is laughing. Movies rapping, millions stacking, but what happened? Life just isn't the same.
From the jump on the run, man, I walk away. I'm the one, give the people what they got to say. Gotta get up, up out of my way.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Around, ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news.
Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do.
Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care.
My, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do.
Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly.